Alors, pour animer la suite de l'après-midi, j'appelle sur scène Olivier Marlas, journaliste, qui va animer les tables rondes. Vous pouvez l'applaudir pendant qu'il s'installe. Et cette table ronde, la toute première pour ouvrir l'après-midi, aura pour titre « Goût de la peur et jeux vidéo grand public, un mariage impossible ?» Point d'interrogation. Et j'appelle donc Patrick Elio, journaliste spécialisé et notamment auteur d'un livre sur Resident Evil. Vous pouvez l'applaudir. Et Guillaume Béchelier, chercheur, artiste, vidéaste, podcasteur et également auteur d'un livre intitulé « Havre de peur ». Lieu d'horreur en jeu vidéo. Merci.
Bien. Merci et bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Bon. Donc comme l'a dit Michel André, la première table ronde va se focaliser sur les esthétiques de la peur et leur épuisement éventuel, on va en débattre, dans les jeux grand public, donc à gros budget, décors, contours de la menace et boucles de gameplay, on va débattre de tout ça. Et pour entrer tranquillement dans le sujet, je propose, et peut-être que le public pourra comme ça mieux cerner votre profil et votre rapport à la thématique du jour, de nous donner le nom du dernier jeu qui vous a fait peur ou qui a provoqué chez vous un sentiment de malaise. Toutes catégories confondues, bien sûr. Même les plus inavouables.
Moi, j'en ai deux. Je vais aller très très vite.
Vas-y.
Alors moi, j'ai noté un titre alors qui n'est pas du tout un blockbuster et qui m'a d'autant plus surpris, qui a provoqué ce petit frisson, vous savez, qu'on a dans le dos qui remonte et on se sent un
il
peu...
Paraît, bon.
On se sent pas très bien. C'est un point and click. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Un point and click type pixel art. Donc, en général, c'est plutôt mignon, c'est plutôt coloré. Là, on est sur du pixel art et donc sur du point and click horrifique. Ça s'appelle, donc, le jeu s'appelle An English Haunting. C'est signé Postmodern Adventures. Voilà. Et donc, on suit des chercheurs en paranormal qui doivent absolument prouver l'existence de l'au-delà. Au bout de 2 ou 3 heures de jeu, donc on suit un personnage principal qui a un échange avec un médium. Et donc, on croit ce personnage principal. Au bout de 2-3 heures, on a confiance en lui. Lorsqu'il nous parle, on a tendance à... On le dirige, donc on le croit. Et il y a ce moment où le point and click, donc, qui est plutôt un... par définition le genre où, qui prend tout l'écran avec de beaux décors, se resserre. On a un dialogue, en fait, dans une calèche, hein, c'est au 19e, et où donc notre héros échange avec une médium qui l'aide dans ses recherches pour prouver cet au-delà, l'existence de l'au-delà. Et là, il y a ce dialogue totalement crispant, moi, qui m'a glacé par les mots uniquement. C'est-à-dire que le cadre est complètement resserré sur cette calèche et juste ces deux personnages qui échangent et ce héros donc, dans lequel on a confiance, du coup, comme je le disais, qui nous raconte de façon très scientifique sa rencontre, parce que sa partenaire lui demande « Mais pourquoi tu veux chercher comme ça les réponses ?» Et il lui explique sa première rencontre avec un revenant, en fait, qui était son frère, qui venait de disparaître, je crois, de polio. Et c'est absolument glaçant. La séquence est glaçante. Ce ne sont que des mots qui s'affichent en mode point and click, hein, dans un écran quasiment noir, avec juste ces deux personnages. Et les mots sont absolument terrifiants, parce qu'ils racontent de façon assez froide cette rencontre qui se passe mal. C'est-à-dire que vraiment, l'apparition est plutôt désagréable pour lui. Et c'est vraiment un moment glaçant, parce qu'on ne s'y attend pas forcément. On est encore une fois dans un genre qui, malgré une thématique horrifique, reste contenu en termes d'effets. Et vraiment, ce dialogue, je l'ai repassé hier pour me dire « Mais non, mais c'est bon, maintenant je peux le gérer. » Et en fait, non. Non, non, c'est toujours aussi glaçant. Et là, ça rappelle la force des mots. Juste des mots. C'est-à-dire que sans effet... Ça, on est loin du blockbuster. On est vraiment sur une production typiquement indépendante. Mais la puissance des mots, la description scientifique par un chercheur de cette rencontre, et on le croit. Et on croit à ce qu'il nous raconte. Deuxième titre, très très vite, Madison, qui est un jeu d'horreur, alors très classique, en vue subjective, dans une maison absolument abominable, terrifiante, et qui reprend la mécanique qu'on connaît bien, chez Guillaume, tu la connais très bien aussi, la mécanique de l'appareil photo qui va faire apparaître des vérités ou des spectres et autres. Et donc, on est vraiment sur un de ces jeux qui, je pense que c'est double A, on va dire, c'est vraiment une production de taille moyenne, qui joue sur l'effet photoréalisme, présence dans des lieux comme Visage, par exemple, où on est dans une maison où chaque déplacement devient inquiétant.
On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs.
Pardon ?
Visage dont on parlera plus tard.
Voilà, exactement. Donc voilà, Madison, on est vraiment là-dessus, avec où chaque coin de couloir peut être terrifiant, parce que le jeu sait s'amuser des effets de lumière, des jaillissements. Et je crois qu'il vient de sortir en VR, mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais j'y viendrai peut-être.
Principalement une rencontre avec un revenant, donc. Et toi, Guillaume ?
Eh bien, je vais aller aux antipodes de ce que nous a annoncé Patrick. Je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus direct. Malheureusement, j'ai un peu le syndrome du chercheur. C'est-à-dire que j'ai passé tellement de temps à décortiquer des jeux que quand je me retrouve face à des jeux, je vois essentiellement les mécaniques et ça peut être des jeux d'horreur. J'essaye de réfléchir à comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait. Mais il y a une franchise qui continue de mettre mal, c'est la franchise Outlast. Et là, on est vraiment aux antipodes de ce que raconte Patrick avec la finesse de English Hunting. C'est-à-dire on est sur quelque chose qui est hyper frontal, hyper brutal, hyper direct. Et il y a toujours un moment où j'arrive à aller derrière le jeu, à comprendre les mécaniques et à moins être stressé. Mais les premières minutes, les premières heures même, soyons honnêtes, et notamment sur le tout dernier épisode via Outlast Trials, on est sur quelque chose qui est vraiment, vraiment terrifiant. Mais parce qu'on est dans quelque chose que l'équipe veut absolument terrifiant et avec des...
Il y a moins de dialogue.
Ah, il y a beaucoup moins de dialogue. Et les personnages ont beaucoup plus de problèmes d'élocution. On est sur quelque chose de vraiment, oui, de vraiment très très crispant et qui tire toutes les grosses ficelles du gore et d'une horreur qui serait vraiment premier degré. Mais c'est, il y a rien à dire, ça reste efficace.
Je remarque qu'aucun de vous deux n'a osé parler de Resident Evil. Ça paraît peut-être évident, trop évident. Mais aujourd'hui, qu'on ait un pied dans le milieu du jeu vidéo ou qu'on soit joueur occasionnel, le premier nom quand on parle d'horreur, c'est sans doute Resident Evil qui vient en tête, sans doute l'unique saga d'horreur grand public qui a su rester vivante, vivace depuis les années 90. Qu'est-ce qui explique, Patrick, selon toi, le fait qu'elle soit encore à ce point structurante en matière d'horreur ?
Comme tu le dis bien, c'est une série d'horreur. Alors, je pense qu'il faut bien rappeler, on parle aussi de peur, et la peur peut être très relative. Je pense que ça dépend de chaque personne. Chaque personne a une sensibilité particulière à tel ou tel effet de peur. Et Resident Evil, alors j'ai rarement eu véritablement peur face à un Resident Evil, c'est pour ça que j'ai pas cité ce titre-là aujourd'hui. C'est une série majeure, je crois qu'elle a passé les 100 millions de ventes dans le monde il y a 2-3 ans, donc voilà, on est vraiment sur du blockbuster pur et dur. C'est une série qui naît en 96, donc qui vraiment surfe sur l'effet PlayStation, sur le premier opus. C'est une série qui est fascinante dans plein de... Donc plein de domaines, en fait. On est à la fois sur une vision très internationale, mondiale de l'horreur, c'est-à-dire qu'on est sur une production typiquement japonaise, mais qui, intègre les codes de l'horreur occidentale, du cinéma américain qu'on connaît très très bien. Donc il y a déjà ce mélange. C'est une série qui va très tôt assimiler beaucoup d'influences. On parlait de Alone in the Dark, évidemment, mais beaucoup d'éléments comme ça de l'histoire du jeu d'horreur. C'est une série qui, donc, va rencontrer le succès tout de suite, en 96, dès le premier volet, et puis très très vite, Capcom, éditeur majeur au Japon, va très vite industrialiser, va très vite identifier cette franchise qui va devenir un de ses grands rendez-vous réguliers, et va savoir le développer de façon intelligente. Je pense qu'il y a aussi une manière de faire progresser cette série de façon cyclique. Quand on regarde un petit peu l'évolution depuis 96, on regarde, il y a des grandes tendances de fractures au sein de la série Resident Evil, avec des générations, des cycles. On connaît les trois premiers avec cette vue très Alone in the Dark, évidemment. Ensuite, il y a des cassures, c'est-à-dire que Capcom n'hésite pas à prendre parfois des risques, à dire on casse un petit peu les mécaniques et on part sur autre chose, on va changer les modes de représentation. Évidemment, Resident Evil 4 reste un choc de changement à la fois de mise en scène, mais aussi de dynamique. Et c'est-à-dire que là, on est sur une série qui se transforme tout en gardant quand même un lore, un univers. Et ça va être la force aussi.
Auquel personne ne comprend rien, mais...
Oui, mais qui s'est tellement enrichi aujourd'hui, qui s'est enrichi de façon, que ce soit via des films, via des romans. Enfin voilà, c'est une série aussi que Capcom va beaucoup travailler en termes de... C'est un peu un Star Wars de l'horreur, quand on y pense, avec des histoires de famille, avec toute une évolution. Et puis, encore une fois, des cassures dans les représentations. Je pense qu'il y a aussi un savoir-faire commercial de l'éditeur qui sent qu'on... Il sent très bien quand une usure apparaît, sur notamment ces cycles de représentation, Resident Evil 4, 5, 6, on sent que Les succès sont là en termes de vente, mais les critiques commencent un peu à accrocher. Et là, on casse à nouveau les schémas. Et dans ce cas-là, Capcom n'a pas hésité, notamment quand on pense à Resident Evil 7, à se nourrir aussi. Je pense que c'est une forme d'intelligence de Capcom, qui est quand même un grand éditeur. C'est de savoir se nourrir en passant. Donc Resident Evil 7, on rappelle, hein, qui est un jeu stressant. On peut le dire, lui, il peut faire peur. Qui se nourrit justement de toute cette vague dont tu parlais de comme Outlast de jeux en vue subjective, c'est-à-dire que là Capcom va puiser dans toute cette vague de jeux indépendants, notamment qui a beaucoup surfé par économie de moyens, par effet comme ça de mise en scène sur la vue subjective, et va se nourrir de ça pour justement concevoir un Resident Evil 7 qui casse un petit peu les habitudes et change aussi de personnage. Il y a aussi une iconisation des héros dans Resident Evil. Je parlais du lore, mais les personnages principaux, notamment féminins, c'est aussi une particularité de Resident Evil, c'est d'avoir très tôt mis en avant des personnages féminins forts qui vont être emblématiques au sein de la saga. Mais justement, Resident Evil 7, on casse un petit peu ça, on incarne un personnage complètement inconnu qui est plutôt transparent. Et donc voilà, il y a régulièrement une remise en question et qui porte ses fruits. Je le disais, plus de 100 millions d'exemplaires de la série depuis les débuts. Je crois que le best-seller, c'est le remake de Resident Evil 2 qui doit être dans les 15 millions d'exemplaires, donc c'est absolument colossal. Et pour peut-être conclure, c'est aussi ça, c'est une capacité à revisiter ces grands classiques, donc à mettre en scène soi-même sa mythologie, les remakes magistraux, Resident Evil 1, Resident Evil 2, qui sont développés en interne et qui... voilà, qui augmente encore l'effet mythologique de titres qui sont maintenant devenus voilà, d'énormes classiques du jeu d'horreur.
Ouais, et tout à l'heure, tu as fait un distinguo entre la peur et l'horreur. Ouais. Donc, c'est évidemment des notions voisines, mais pas identiques, dont on aura l'occasion de débattre au cours des tables rondes. Mais ce qui est certain, c'est que si Resident Evil occupe aujourd'hui une place à part dans le paysage du jeu vidéo, parce qu'il y a très peu de jeux d'horreur AAA, qui sont vraiment catégorisés jeux d'horreur. Il y a en revanche toute une esthétique de l'horreur et de la peur qui se développe dans beaucoup de genres de jeux qui étaient a priori éloignés de l'horreur. Je pense à des jeux d'action, d'aventure, de tir, même le roguelike, Returnal par exemple. Quel regard vous portez justement sur cette exportation, si on peut dire, de l'esthétique de la peur? Vous y voyez une opportunité créative ou au contraire une sorte de, je sais pas, de frisson grand public taillé pour un cahier des charges, quoi?
Mais moi, ça me paraît toujours une opportunité intéressante parce que, au-delà d'une diversification, ça permet de donner une teinte différente, une couleur différente à des types de jeux qui sont peut-être déjà passés par des cahiers des charges très, très établis, très scriptés. Ça permet, d'un point de vue créatif, d'ouvrir. L'exemple de Returnal est très intéressant parce que ce genre de shooter, au-delà des. Returnal. Ce genre de shooter un peu spatial comme ça, on a déjà vu beaucoup ça, mais le fait d'aller vers cette esthétique qui renvoie à des films comme Prometheus, à ce genre de choses, ça permet aussi d'un point de vue créatif d'amener un discours différent, d'amener des visuels différents, et finalement c'est une richesse, ça nourrit. Et comme ça s'est déjà vu dans d'autres médiums, comme par exemple le cinéma, où le film d'horreur va infuser à une certaine époque à Hollywood et va réapparaître dans des films qui a priori ne sont pas de l'horreur, c'est des choses qui sont vraiment clairement établies, on va avoir le même mouvement dans le jeu vidéo où finalement des choses vont émerger et vont nourrir des styles entiers. Ça peut être la dark fantasy, on pense à tous les Souls, qui finalement toute la série des Dark Souls, où on a des esthétiques de dark fantasy qui, au-delà des canons propres à la dark fantasy, vont aller chercher des choses vraiment strictement dans l'horreur, aussi bien du point de vue de l'esthétique que de certaines mécaniques qui sont la fameuse dark soulisation du jeu vidéo. C'est finalement s'étendre vers des contraintes qui sont assez caractéristiques des jeux d'horreur, parce que c'est une des caractéristiques d'un point de vue strictement ludique du jeu vidéo d'horreur, c'est le rapport à la contrainte. C'est quelque chose qui est très présent dans le jeu vidéo en général, mais la particularité de l'horreur, c'est d'aller pousser les curseurs à tout point de vue, de ce point de vue-là. Et finalement, ce que propose Dark Souls, c'est d'amener cette dynamique vraiment d'hyper contrainte dans un jeu d'aventure, de fantasy. Et pour le coup, le fait qu'il y ait ce sorte de vampirisme comme ça dans l'horreur, ça a permis de renouveler, en tout cas d'amener quelque chose à un genre spécifique qui existait déjà. Et oui, ça reste une richesse à mon avis.
Patrick, tu partages ce point de vue ?
Oui, je pense qu'il y a, c'est de façon très générale, je pense qu'il y a une fascination aussi pour le morbide. Il y a souvent quelque chose de cathartique quand on analyse un petit peu. Enfin, moi, j'aime bien le cinéma d'horreur. Je suis plutôt bon client pour des jeux qui ont qui intègrent comme ça des composantes horrifiques. Mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose, oui, de la catharsis quand on évoque des corps délabrés. Ou je pense qu'il y a quelque chose, comme tu le disais, dans la mise en scène aussi, peut-être de la mort qui peut aussi être intégrée dans les jeux aussi, l'aspect morbide. Et effectivement, quand on amène de l'horreur dans une catégorie de jeux qui est déjà peut-être surpeuplée ou qui est déjà très fréquentée. Ça permet, oui, de libérer toute une imagerie, de pousser, comme tu disais, les curseurs, mais aussi voilà, d'aller vers quelque chose de plus inquiétant, peut-être de bousculer aussi le joueur, la joueuse, c'est-à-dire d'essayer de la toucher particulièrement, avec une vision, avec quelque chose qui va laisser une empreinte. Souvent, voilà, les visions horrifiques, on parlait de Returnal, ben on a des visions qui peuvent être assez glaçantes pendant la partie, et c'est ce qu'on regarde, enfin c'est ce qu'on garde plusieurs mois après. Il y a quelque chose qui imprime la rétine de façon très forte, parce que ce sont des images qui nous marquent. Ça fait encore une fois partie de, je pense que c'est très humain, et c'est à la fois inquiétant, terrifiant, mais ça nous attire. Moi, comme Frédéric, hein, dans ma jeunesse, les films d'horreur, ça m'attirait, parce qu'évidemment, on passe tous par ce stade d'apprendre ce qu'est la mort, comment ça fonctionne. Enfin, il y a quelque chose de, je pense, qui est assez essentiel, en fait, et universel, encore une fois.
Mais tu parles de choses qui impriment la rétine. Justement, Resident Evil, c'est l'exemple parfait, puisque quand il arrive sur PlayStation, ça correspond au début de la 3D, on va dire. Il y a toute une forme de modernité et de rigidité dans le cadre qui s'entremêle. C'est avant tout un choc visuel, on peut le dire, pour l'époque, même s'il a peut-être un peu mal vieilli aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, à l'époque, c'est vraiment un choc visuel. Notamment, cette idée de danger immédiat qui intervient par la figure du zombie. Je pense au chien aussi qui frappe comme ça à l'intérieur du manoir, qui vient du dehors. Aujourd'hui, la figure du zombie typique de Resident Evil, on la voit à peu près partout, que ce soit dans l'univers de la pop culture au sens large. The Walking Dead a fait son travail, et peut-être un peu trop. Aujourd'hui, le zombie qui incarnait la menace vraiment marquante de Resident Evil, est-ce qu'il fait vraiment peur aujourd'hui ? Quelle monstruosité il incarne encore à vos yeux ?
Le zombie, on pourrait en parler des heures. Enfin, c'est une figure évidemment très intéressante. Parce que, en plus, 96, c'est intéressant parce que c'est un moment un peu creux en termes d'exploitation de la figure du zombie. Au cinéma, il y a beaucoup moins d'actualité. On est avant le remake de L'Armée des Morts, etc., qui arriveront quelques années après. 96, c'est plutôt calme. Et arrive donc Resident Evil, House of the Dead aussi. Donc c'est par le jeu vidéo, à ce moment-là notamment, qu'il y a une réactivation un petit peu de cette image du zombie qui est un bon client pour le jeu vidéo. C'est un bon client parce que...
Est-ce que c'est pas un peu trop un bon client, je trouve ?
C'est une figure anonyme que l'on peut terrasser sans aucun remords quasiment. Enfin, il est complètement...
C'est une cible de fête foraine. Hein.
C'est exactement ça. Et dans House of the Dead, c'est exactement ça. On tire dessus avec un pistolet. Donc oui, effectivement, il y a une réactivation dans ces années-là, au début de Resident Evil, à la sortie des premiers volets, avec évidemment tout l'aspect convoquer les modèles du cinéma. Hein. Resident Evil 2, c'est évidemment le cinéma de Romero, bien sûr. Donc il y a toujours cette accointance avec le cinéma qui est très présent. Mais effectivement, aujourd'hui, la figure du zombie, elle a tellement été utilisée. Je ne pense pas qu'elle ait perdu de son impact. Cette masse qu'est le zombie, on sait ce que ça représente. Le consumérisme, ça représente l'humanité, quelque part. Et ce qu'on retrouve aussi dans le jeu vidéo qui met en scène cette figure, on sait très bien que le véritable ennemi, c'est toujours l'autre humain. Ça va être un autre humain, le vrai problème, plus que le zombie qui est souvent un moyen ou qui va être entre les deux. Mais l'ennemi principal, dans la plupart des cas, c'est l'humain, l'autre. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans l'évolution du jeu vidéo, le zombie est toujours là, le zombie ou l'infecté. Bon, après, il faut faire des subtilités, mais bon, en tout cas, on sent qu'il y a une évolution aujourd'hui vers l'effet de masse. Et ça, on l'a vu avec des titres comme Days Gone ou d'autres, hein, ou Dying Light, ou en tout cas, la technologie permet aujourd'hui de plus en plus d'exploiter non plus un zombie tout seul.
Et maintenant, on les voit même, dans Dead Island ou dans des sortes de défouloirs, en fait. Maintenant, c'est presque un objet.
C'est de la masse.
Tu parlais de fête foraine.
Dead Rising, c'est de la masse qui peut nous avaler. On peut être avalé par la masse physiquement. Enfin, on a vraiment quelque chose qui peut devenir suffocant. On est dans une autre peur. On n'est plus dans la peur d'un moi dévitalisé qui est une sorte de miroir terrifiant. on est aujourd'hui, via notamment l'évolution des technologies, dans certains cas de figure, Dead Rising, Days Gone, sur des masses entières. Et là, on est vraiment sur le trope du zombie dévitalisé, mais qui représente une menace de masse, en fait. Des flots de non-humains qui peuvent nous terrasser.
Mais c'est là où il est intéressant, parce qu'on passe effectivement de la figure de cible faite foraine, ce que je disais tout à l'heure, à une figure qui s'adapte très bien au médium du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est évoluée avec les générations de consoles, de PC, etc. Et on a d'abord, dans un premier temps, l'image du zombie qui s'est améliorée avec un rendu plus réaliste, etc. Le fait de localiser les dégâts, ce genre de choses qui peut amener des éléments de gameplay intéressants. Et effectivement, je suis complètement d'accord. On arrive sur l'idée de masse, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être fait. Quelque chose comme Dead Rising 3, par exemple, on se retrouve avec des autoroutes entière remplie de zombies, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire 10 ans, 5 ans auparavant, et qui apporte quelque chose d'un point de vue ludique. Donc le zombie en tant que tel, c'est la figure est complètement éculée, c'est clair et net, mais par contre la possibilité de l'articuler à différentes mécaniques de jeu, et Days Gone le fait très bien aussi avec ses chasses de hordes, quand bien même la figure en tant que monstre elle n'aura pas d'effet spécialement terrifiant, on est très très loin d'un monster design comme on peut avoir dans des Bloodborne ou ce genre de choses, où là vraiment il y a une inventivité au niveau des créatures qui va pouvoir créer de l'étrangeté, de la frayeur, parce qu'on est face à une créature qu'on a presque parfois du mal à identifier. Bon, le zombie, on le connaît par cœur, que ce soit de Plantes vs Zombies à n'importe quel jeu d'horreur, on sait à quoi ça ressemble, que ça soit mignon ou pas.
Mais dans Minecraft aujourd'hui.
Oui, mais dans Minecraft, clairement. Mais par contre, l'effet de horde, là, c'est quelque chose qui peut être hyper saisissant, et ça fait partie presque des phénomènes les plus casse-pieds dans les jeux vidéo quand on a des ennemis, c'est quand on a des hordes de choses qui grouillent. Ça fait partie vraiment, en tout cas, moi, en tant que joueur, c'est vraiment un truc qui m'agace. C'est dès qu'on a des hordes d'araignées, de petits machins par terre, c'est toujours ceux qui sont les plus difficiles à faire disparaître. Et le zombie peut remplir ce rôle-là, donc il n'est pas encore complètement, à mon avis, passé à la porte et inintéressant.
Et ça avance encore. Enfin, c'est vrai que là, c'est vraiment l'image qu'on a pu voir au cinéma dans World War Z, par exemple, avec ces vagues comme ça, ces monticules de zombies, donc la masse est importante. Mais il y a aussi encore des évolutions quand on voit c'est Dead Island 2, notamment, j'ai plus le nom du moteur, mais un moteur spécial a été créé pour. Détaillé, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas très ragoûtant, mais on a vraiment des dégâts très réalistes qui sont affichés sur chaque mort-vivant qu'on va combattre, avec les articulations, les cartilages qui apparaissent. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, on sent qu'il y a aussi une volonté de certains développeurs d'aller justement à l'inverse, de rester cantonné parfois à un individu et de montrer qu'un individu peut se décharner et s'abîmer en détail. Donc on a les deux, en fait, on a les deux paramètres parce que les technologies ont évolué et permettent d'avoir cet effet comme ça d'ampleur ou au contraire d'une carnation du monstre en fait en face de soi en détail.
Pour continuer sur cette problématique du monstre, je propose qu'on passe le fichier numéro 1, s'il vous plaît, en régie. Juste en préambule, 2 secondes avant de le diffuser. Donc c'est le narrateur qui va s'exprimer dans le documentaire. Il s'appelle John Ho, peut-être que vous le connaissez déjà. Donc c'est un illustrateur qui est connu pour avoir fait la direction, enfin pour s'être occupé de la direction artistique du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc c'est donc un spécialiste de la mise en image de Tolkien. Donc on peut passer le documentaire et on en parle juste après, enfin l'extrait. Oui, alors la personne qui parle en dernier, c'est donc Mike Mignola, le créateur de Hellboy.
Accessoirement.
Voilà, accessoirement, voilà. Je trouve que c'est un extrait plutôt intéressant, puisque évidemment Lovecraft, c'est une des ombres tutélaires, une ombre tutélaire de la fiction d'horreur, pas seulement dans le jeu vidéo, évidemment, même si beaucoup de jeux se réclament de Lovecraft, et peu d'ailleurs parviennent à laisser une marque. En tout cas, vous aurez l'occasion d'y revenir. Peut-être que certains jeux sont à sauver, selon vous. Je trouve qu'il y a globalement un problème dans le jeu vidéo AAA, c'est qu'il a tendance à afficher et à laisser parler son côté spectaculaire avant tout. Je pense notamment à certaines productions PlayStation qui sont coutumières du fait d'une tendance qui veut que certains personnages, notamment dans Uncharted, qui voit le héros devant un panorama s'expliquer et dire à quel point c'est beau dans un temps calme. Et souvent, le personnage secondaire surenchérit disant ah oui, c'est très très beau. Et évidemment, ce n'est pas le personnage qui parle, mais le studio qui cherche à montrer à quel point son moteur graphique fait des merveilles et à quel point le joueur a en quelque sorte chanceux d'être devant un tel spectacle. Je trouve qu'il y a la même vision qui se propage dans beaucoup de jeux au climat horrifique et qui fonctionne un peu sur le modèle de l'EHPAD. Donc comment on fait pour justement, comme disait Mike Mignola, conserver ce besoin de divertissement de spectaculaire tout en gardant une part de mystère pour permettre à la peur d'infuser tout simplement.
Oui. Pour le coup, moi, je suis complètement d'accord avec les propos de Mike Mignola. Il y a vraiment, j'ai eu l'occasion de travailler justement sur la représentation de Lovecraft dans les jeux vidéo. Mmh. Et il y a effectivement cette volonté de modéliser les choses, de les présenter, et effectivement de faire usage de moteurs qui sont capables de présenter les choses de manière très réaliste. Donc c'est très très bien. Le souci, c'est qu'effectivement, dans une, si on essaye d'être suffisamment proche de Lovecraft, clairement, on ne peut pas, on ne devrait pas montrer les choses. Ça peut pas fonctionner. Et il y a des pistes qui sont pourtant intéressantes. Et moi, c'est ce que j'avais un peu creusé. Des pistes du côté de Lovecraft lui-même, qui dans ses textes, quand même, lui c'est pour le critiquer, dans L'Appel de Cthulhu, il fait, Lovecraft fait référence notamment au cubisme et au futurisme italien. Et ce sont des pratiques artistiques qui consistent notamment à travailler la réalité, à la montrer sous des aspects et sous des dimensions différentes, qui est littéralement des choses qu'on peut lire chez Lovecraft, et qui amène à une figuration qui n'est pas la figuration à laquelle on est habitué. Le problème, c'est que en jeu vidéo, avec l'usage des moteurs de jeu, c'est compliqué d'obtenir ce genre de rendu, mais il y a quand même des jeux qui, même si pour le coup c'est quand même assez différent d'un univers Lovecraftien, bon, un des jeux qui m'a proposé ça d'un point de vue visuel, c'est le premier épisode de Hellblade, où on se retrouve avec des rendus sur certains passages, des rendus où la réalité est réellement distordue, à tel point qu'on perçoit des fragments de la réalité, mais on n'arrive jamais à comprendre réellement les environnements, notamment la fameuse scène de l'incendie du village. Et ça, ce genre de pistes, à mon avis, ce sont des pistes qui seraient vraiment intéressantes à travailler sur de l'horreur, pour amener des créatures où on ne jouerait pas que sur la solution de l'éclairage et de la lumière, de l'ombre, pour dévoiler sans vraiment trop dévoiler, ou alors sans jouer la carte d'un univers tellement cryptique que finalement on voit rien. Il y a des choses à mon avis, mais qui, je pense que c'est une vraie recherche très intéressante, parce qu'elle relève à la fois de la direction artistique et à la fois de la dimension technique des moteurs, l'utilisation des moteurs pour pousser les moteurs peut-être sur des retranchements sur lesquels on n'a pas l'habitude de les pousser, non pas de l'hyper-réalisme, mais au contraire d'un usage qui consisterait à casser l'image comme on n'a pas l'habitude de le faire dans les jeux. Et voilà, moi je n'ai pas l'aspect technicien, donc je ne me prononce pas là-dessus, mais ça me paraît être intéressant.
Tu parlais de moteur. Justement, Capcom est connu pour avoir une vision de l'horreur plutôt rutilante. Et dans ton livre Havre d'horreur, tu comparais la panoplie du Nemesis de Resident Evil 3 à l'attirail du Catcher, selon les mythologies de Roland Barthes. Un Catcher, ça fait peur ou...
Non, mais ça impressionne. Alors après, moi je suis d'accord avec Patrick, hein, Resident Evil, c'est pas une saga qui fait peur. Elle a oublié de faire peur depuis pas mal d'épisodes.
Subjectif, hein, attention.
Non, chacun, mais moi je suis assez d'accord. Le verre est dans le fruit. Dès le départ, c'était un nanar. Il y a qu'à voir l'intro en full motion vidéo du premier épisode.
Non, elle est très bien.
Je sais que tu l'adores, mais ça reste du nanar. Le scénario, tout l'univers, tout ce qui est là, ne cherche pas foncièrement à faire peur. Et le Némésis, on est, oui, clairement sur une sorte de gros personnage qui, je faisais référence à Roland Barthes justement par rapport à l'idée que ce que dit Roland Barthes dans son texte Un monde où l'on catch, c'est que le catcheur, il est là pour avoir des gestes hyper excessifs, hyper démonstratifs, qui fait qu'on va comprendre la mise en scène, qu'on va comprendre entre guillemets son acting. C'est-à-dire qu'il va annoncer un geste par une grimace, par une figure, par une posture pour comprendre, attention, je suis fort, attention, je vais gagner, attention, j'ai mal. Et cette espèce de mise en scène sur le surjeu, sur le grotesque, c'est clairement un dispositif qui est à l'œuvre dans beaucoup de jeux d'horreur où le monstre, avant de nous attraper, il va faire gros, attention, je fais peur, sans que ça soit forcément... finalement très efficace d'un point de vue de la peur. Là où, par exemple, inversement, un jeu comme Alien Isolation, parfois on se fait rattraper par le xénomorphe, on le voit à l'image pendant 2 secondes, le temps de se faire perforer le crâne par le xénomorphe, et puis écran noir, game over. Et là, pour le coup, la peur est saisissante parce qu'on n'a pas compris d'où venait. Éventuellement, on a entendu 3-4 bruits de pas derrière nous, on se retourne, on voit le xénomorphe, et c'est fini en 2 secondes. Et je pense que l'effet de peur est beaucoup plus saisissant dans ces cas-là. On a plus de chances de lâcher sa manette qu'avec une scène d'exposition un peu lourdingue, un peu too much, très catch dans l'esprit, d'un Resident Evil.
Par exemple, Patrick, tu considères qu'aujourd'hui, Resident Evil n'est plus dans le jeu d'horreur ?
Encore une fois, c'est très subjectif. Je pense que chacun a son degré de résistance à l'effroi. Et selon le volet de Resident Evil, encore une fois, Resident Evil 7, elle est assez loin en termes de frayeur.
Pendant la première moitié.
En tout cas, je pense que dans cette question du jeu d'épouvante, on n'utilise pas assez ce terme, le jeu d'épouvante, l'épouvante. Et je trouve qu'on l'emploie davantage au cinéma, un peu moins peut-être aujourd'hui, mais je trouve que tout est dit dans le jeu d'épouvante, se faire peur. Et je trouve que c'est un sentiment très, très profond. Enfin, moi, quand j'ai eu des moments de stress en jouant, c'était souvent une sensation d'appréhension. J'appréhende. Quand je joue, en fait, j'ai envie de maîtriser ma partie. J'ai mes curseurs avec mon énergie, mes objets, etc. Et j'ai envie de maîtriser ma partie. Je suis performatif et je veux être efficace dans l'avancée du jeu. Et en fait, il y a ce moment d'appréhension. Et je pense que tu l'as un petit peu dit avec des apparitions, peut-être des. C'est une question de timing. Je pense que le jeu vidéo qui veut faire peur peut s'y prendre comme ça. C'est faire monter la pression. Et c'est pas forcément, effectivement, avec des effets de jumpscare ou autre. Ça va être le vide, parfois. Le vide, l'absence. L'absence dans Alien Isolation, l'absence même du monstre est terrifiante. Le silence est terrifiant parce qu'on sait qu'il va arriver. Et moi, en tant que joueur, je sais qu'il va jaillir à un moment ou un autre. Et quand, en plus, le jeu peut s'amuser à faire passer une ombre. On a ça dès le début de Resident Evil 7, hein, dès les premiers plans, quand on se balade comme ça dans les herbes, on voit passer une ombre, et on se dit, ça y est, c'est quelque chose va se passer. Quand on connaît en plus un petit peu les mécaniques du jeu vidéo, on sait très bien qu'il y a c'est rempli de mécaniques, ça grince de partout, on s'en rend pas compte en jouant, mais on sait que beaucoup de choses sont en route pendant une partie, il y a beaucoup de mécanismes en branle, et on sait que si je vais prendre un objet, on m'attend à tel endroit pour aller actionner une porte, le jeu va savoir que je vais passer là, donc en général, on sait qu'un script peut s'enclencher, donc il y a l'appréhension. Et cette idée d'appréhension, elle est très forte, enfin, moi, je l'ai ressenti, un des pics dans le domaine, c'était dans Project Zero, par exemple, cette série de jeux d'horreur où on incarne une jeune femme avec un appareil photo qui doit attraper des spectres. Et j'avais vraiment cette sensation d'avoir peur d'ouvrir une porte. J'avais peur de ma propre réaction, c'est est-ce que je vais être capable de gérer ce qu'il y a derrière, de ce que je vais découvrir, en fait. Plus que peut-être l'avatar en lui-même, c'était quelle va être ma réaction en tant que joueur face à ce qu'il y a derrière la porte. Et là, je me dis, le jeu a réussi. Il a réussi à m'inspirer un phénomène d'appréhension de ce qui va suivre derrière.
Mais sur cette notion d'appréhension, si je puis me permettre, c'est là où un jeu comme, contrairement aux apparences, un jeu comme une série de jeux comme Outlast est beaucoup plus subtil qu'il en a l'air. Alors, je sais que subtilité et Outlast, ça n'a pas l'air de coller, mais c'est que le jeu, en fait, on sait que ce qui nous attend est tellement sale. Si on se fait choper, que le jeu va beaucoup miser, un peu moins sur le tout dernier épisode qui est beaucoup plus dans la vitesse, mais il va miser sur le fait de nous faire peur sur ce qui pourrait nous arriver. Et on va avoir des séquences, par exemple dans le premier épisode, où on va se promener dans les couloirs, dans l'obscurité, avec cette fameuse caméra où on n'y voit quasiment rien, et avec le passage de Chris Walker qui va nous appeler, qui va nous traiter de petits porcinets, et nous courir après, et on entend juste sa voix. Et on se retrouve parfois des séquences comme ça où on est avec notre caméra, et d'un coup on voit deux yeux qui brillent au fond d'un couloir, et on n'a pas encore vu la créature, on l'a vaguement entendu arriver, on a vu ses yeux qui brillent, et là on sait qu'il n'y en a qu'une chose à faire, c'est trouver un placard, sinon ça va mal finir. Et ça, finalement, c'est au-delà de l'aspect gore de cette série, cet aspect-là est hyper bien mis en scène, parce que clairement, ce qui fait que moi, par exemple, en tant que joueur, j'ai encore peur d'Outlast, c'est qu'il y a un effet d'appréhension qui est très très fort.
Oui, puis il y a un peu d'imprévu aussi.
Oui, c'est jamais trop. Ça peut partir dans tous les sens.
Un jeu que tu m'avais conseillé, Removed, que tu m'avais gentiment conseillé, qui m'avait assez terrifié avec ce personnage qui nous court après dans une grande bâtisse. Et où, pareil, il y a cette sensation de présence dans des lieux où on n'a pas envie d'être, en fait. C'est ça un jeu d'épouvante, c'est qu'on est, on est joueur, j'ai acheté le jeu, je le lance, j'y vais parce que ça m'intéresse et que ça me fascine. Et quand on est manette en main, on n'a pas envie d'être là, en fait, pas du tout. Le moindre craquement de porte, le moindre... tout devient terrifiant. Et c'est ça aussi, c'est à la fois une envie d'y aller, d'y être, mais quand on y est, c'est pas toujours...
Justement, tu parles de lieu où on n'a pas envie d'être, et juste avant, tu parles de timing et d'appréhension de la peur. Si on fait le pont avec la peur au monde ouvert, justement, donc des lieux théoriquement où on n'a pas envie d'être dans le cas des jeux en monde ouvert, notamment je pense à tout l'univers post-apo, évidemment, dont on a eu beaucoup d'exemples ces dernières années. Justement, dans un monde ouvert où on est incité à flâner, même s'il y a une part de danger, évidemment, on peut citer, vous avez parlé de Days Gone, même dans Horizon, avec quelques éléments qui jouent sur la peur également. Comment ça s'articule, justement, la peur en monde ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de rythmique, justement?
Ah, c'est le cœur du problème de designer des jeux d'horreur en monde ouvert, parce que le principe même, le fonctionnement même de l'horreur, c'est d'enfermer les gens. Mmh. On l'a vu, Alone in the Dark, c'est l'événement fondateur, on enferme des gens dans une maison, point. Et à partir de là, il faut sortir. Bah, si on se retrouve au milieu d'une plaine, le problème n'est plus du tout le même. On peut partir en toute direction, on peut s'échapper, donc forcément, la peur ne va pas fonctionner du tout de la même manière. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre assez tard, et il a fallu attendre aussi la mode des jeux en monde ouvert, où on avait l'impression que n'importe quelle série de passer par cet exercice-là d'ouvrir les jeux, et il a fallu attendre quand même assez tard pour avoir des jeux qui proposent ça. Pour moi, un des jeux qui réussit le mieux, c'est Dying Light. Au moins le premier épisode, le deuxième est très bien aussi, mais bon, je préfère le premier. Mais en fait, ils vont tricher, c'est pas tant l'ouverture qui va créer de la peur. L'ouverture, elle va servir à proposer ce qu'on évoquait tout à l'heure, des hordes, des espaces remplis de zombies. Mais en réalité, il y a une rythmique qui est installée par le jeu, d'ouverture et d'enfermement des espaces, de resserrement des espaces, avec des espaces, par exemple, on va nous amener dans des immeubles, on va amener dans des couloirs, dans les nids des fameuses créatures, les rapaces.
Dans des caves, ici, dans des sous-sols, caves,
beaucoup
les,
de sous-sols.
Dans les métros.
Bien sûr. Et...
il y a un décor très vertical aussi dans
et il y a des éléments, voilà, on va jouer sur la spatialisation vraiment qui va être très importante pour créer une rythmique très particulière entre la grimpe, la course, et le jeu est connu pour le fait qu'on se déplace en parcours, donc en pouvant sauter tous les obstacles et sauter notamment les zombies qui servent d'obstacles. Et il va y avoir un autre élément important pour la rythmique, c'est le cycle jour-nuit. Et ça fonctionne très très bien dans ce jeu-là. C'est un truc qui est classique dans plein de RPG, dans plein de jeux de rôle. Voilà, on a les aventures le jour, la nuit. Certains jeux, même des jeux avec des mécaniques qui sont pas censées être horrifiques, comme Dragon's Dogma 2 par exemple, l'ont montré, où la nuit, ça devient un peu plus dangereux, il y a des spectres qui apparaissent, etc. Mais dans Dying Light, ils ont trouvé la bonne idée d'avoir des zombies assez mous, pas trop efficace le jour, et la nuit d'avoir ces fameux rapaces qui eux courent aussi vite que nous, et ça crée une dynamique qui va refaire apparaître les ingrédients de base de l'horreur vraiment très frontale, à savoir on est dans l'obscurité, on n'y voit plus très bien, on est face à des créatures qui sont surpuissantes, et il faut compter sur nos réflexes et sur notre ruse pour réussir à y échapper. Donc là, la rythmique est bonne, efficace. Là où, par exemple, un jeu post-apo de zombies comme Last of Us ne va pas du tout jouer là-dessus. Il y a des séquences de resserrement, d'enfermement, mais finalement, les cycles jour-nuit, ces problématiques-là, ne sont pas du tout abordées dans le jeu de manière, en tout cas, ludique.
Et tu parlais d'obscurité dans Dying Light, justement, où on avait la peur qui infusait davantage. Est-ce que ça veut dire que les jeux en monde ouvert doivent parfois s'empêcher d'être un peu trop dans la lumière et donc d'en montrer trop, donc de faire briller leur moteur? Je pense notamment à Mad Max, qui théoriquement devrait faire peur, puisqu'on est dans une situation d'urgence totale, avec beaucoup de monstres autour. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, les tests et le public a surtout retenu le mode photo. On pouvait faire de jolies photos devant le panorama.
Les tempêtes étaient très belles.
Au-delà du côté anecdotique, c'est un élément qui est devenu vraiment marketing dans à peu près tous les jeux grand public. Mad Max... donc à partir de là, tant qu'il n'y a pas d'obscurité, de sorte de manière un peu de tricher, la peur en monde ouvert, ça prend pas trop.
Je pense que
tu l'as
bien
trop.
Résumé, je pense que c'est vraiment une question de curseur, effectivement, où même dans un monde post-apo, on peut avoir des poches plus horrifiques au sein d'un univers quand même qui est déjà pas très joyeux. Hein. Dying Light, on ne peut pas dire que ce soit voilà, y a la lumière au ras du sol, etc. Mais effectivement, ces poches où on sent que le jeu monte les curseurs de l'horreur, en fait, avec effectivement resserrement, difficulté qui monte en flèche, comme s'il y avait une sorte de reprise par le jeu de sa composante horrifique qui remonte, en fait, qui a des pointes comme ça, des fulgurances de stress pour le joueur. C'est souvent lié l'apparat, tu disais, on se retrouve dans le noir, dans des ambiances beaucoup plus stressantes. C'est lié à un niveau de difficulté aussi qui monte à ce moment-là. Donc ça fait vraiment partie d'une rythmique au sein d'un monde ouvert, avoir des poches comme ça d'intensité, d'ambiance et souvent de difficulté. Et effectivement, c'est souvent dans des caves, dans des métros, enfin je pense à Dying Light 2 notamment, c'est ça, c'est qu'on est vraiment, on rentre en profondeur dans un jeu qui est moins en monde ouvert, qui resserre effectivement l'étau et monte en difficulté et en ambiance. Ouais.
C'est un peu le syndrome, ce que tu évoquais, c'est un peu le syndrome Resident Evil 5, où finalement, d'essayer de faire de l'horreur en plein soleil, c'est un enjeu qui est complètement différent. Et encore une fois, je pense qu'il y a une question de curseur, où Mad Max, on a de très très belles lumières, et forcément, ça donne plus envie de prendre des photos que de s'enfuir. Et peut-être que l'opposé exact de l'obscurité de l'horreur, ça serait l'éblouissement. C'est une carte qui est jouée par extrêmement peu de jeux, de le mettre face à quelque chose où on ne voit plus, de la même manière qu'on est dans le noir, on serait exposé à trop de lumière. Et là, effectivement, on pourrait avoir quelque chose où on aurait façon film d'extraterrestre, où les extraterrestres sortent du rayon lumineux pour s'approcher de nous. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait se jouer, mais c'est vrai qu'en plein soleil à midi, c'est moins efficace.
Transition parfaite, et pourtant on ne s'est pas concerté. Mais est-ce qu'en régie, on peut passer l'extrait numéro 2 de A Plague Tale Requiem, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il s'affiche ? Puisque dans A Plague Tale, il y a un niveau... Voilà. Bon, là, ce n'est pas celui-là exactement, mais en tout cas, il y a une image de plein soleil qui s'exprime sur ce visuel. Et Plague Tale a toute une île, un décor île sur Lacuna, je crois, qui joue la carte justement de l'horreur en plein soleil, dont tu parlais juste maintenant. Et les développeurs ont déjà exprimé qu'ils s'étaient plus ou moins influencés de Midsommar, évidemment qui fait un petit peu référence au niveau de l'horreur à la lumière du jour. Est-ce que vous trouvez que ça marche dans A Plague Tale Requiem, par exemple ? Est-ce qu'il tente, il arrive à instiller une nouvelle façon d'avoir peur ?
Après,
qui est aussi connu pour justement ses graphismes très, très poussés, même si on peut plutôt le catégoriser comme double A, il a été quand même très bien reçu et même plutôt perçu comme un blockbuster, tellement il était beau.
Alors, je pense que la peur dans cette série-là, elle est un petit peu différente. Je pense qu'elle est quand même très liée au rapport aux personnages, leur rapport entre eux, les enjeux de survie qui sont très denses. Moi, j'avais un peu plus de bémol sur les mécaniques qui sont souvent très cloisonnées, avec quelque chose de très répétitif souvent. Enfin, il y avait cet effet-là. Visuellement, oui, on est sur quelque chose de très cru. Il y a un rapport très cru à l'horreur en fait dans Plague Tale. Il y a quelque chose de photoréalisme et très lié aussi aux environnements. Enfin, on sait que justement cet aspect très lumineux, très visuel. Je pense qu'il est là aussi pour montrer l'horreur dans ce cas-là de plus cru et justement voir un des deux. On n'a pas envie qu'un des deux personnages trépasse. Donc il y a aussi cet enjeu de montrer l'horreur sous un autre jour, entre guillemets, mais avec, encore une fois, des mécaniques qui sont assez cloisonnées. On n'est pas du tout sur un monde ouvert, on est vraiment sur dans la partie en général, sur le jeu, on n'est pas sur les mêmes mécaniques en fait.
Non, je voulais juste ajouter que je pense qu'il y a une volonté, un jeu de contraste par rapport au premier épisode qui est vraiment très gris, où on est sous la pluie avec les rats. Là, il y avait vraiment l'idée de vouloir montrer que, bon, au soleil, les choses ne s'arrangent pas forcément plus. Mais l'horreur peut venir aussi par ce côté, c'est un peu l'effet Dead Island. L'effet, on est en plein soleil, l'espace a l'air d'être un espace presque estival, on s'y sent bien. Et là, il y a quand même le surgissement des rats. Mais malgré tout, les développeurs ont, au bout de certain temps, recours dès qu'on vire à la catastrophe. À des ambiances de tempête, d'orage, de nuit. On revient sur ces fondamentaux qui sont, sans faire de la psychologie de comptoir, qui sont vraiment liés à ce qu'on identifie de tout temps à jamais comme des moments de terreur. Mais encore une fois, l'aspect lumineux, je pense qu'il sert essentiellement d'outil de contraste pour...
Malaisant, c'est malaisant en fait. Oui, par le côté carte postale.
Pour qu'on comprenne que voilà, on est dans une carte postale et d'un coup on voit des carcasses mangées par des rats. Ouais. L'effet est d'autant plus saisissant que si on était dans un endroit où on s'attend, avec un décor à la Bloodborne, où on s'attend à voir des carcasses mangées par des rats.
Oui, ça peut créer une sorte de distorsion entre des images un peu d'épinal qu'on a de cartes postales où il fait beau.
Ça, on a vraiment l'impression qu'ils vont salir d'un coup des cartes postales de vacances. Quoi.
C'est ça, ouais, Dead Island, c'est exactement ça. Ouais.
Et justement, Plague Tale Requiem, c'est aussi un jeu qui a un ancrage territorial plutôt spécifique, donc dans le sud de la France, notamment en Provence, dans le numéro 2. Je trouve que c'est assez rare dans le paysage du double A ou du triple A qui baigne dans un climat horrifique. Tout à l'heure, on parlait de Days Gone. Days Gone, ça se passe en Amérique. Mais si l'hiver du jeu se déroulait, je ne sais pas moi, en Sibérie, est-ce que ça changerait fondamentalement l'expérience ? Dans Horizon, est-ce que si on était en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on aurait l'impression d'être dépaysé de la même manière ? Est-ce que ça aurait une influence sur la peur ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois le jeu, à force de décrire un territoire ouvert, fantasmé, sans ancrage territorial réel, comme, je sais pas moi, par exemple, Londres post-Première Guerre mondiale de Vampire, est-ce que ça joue pas un peu ? On n'a pas l'impression d'être nulle part et partout à la fois. Est-ce que vous trouvez pas le territoire qui est... Ça manque un peu de vitalité, par moment ?
Ça joue clairement à force, c'est la répétition de clichés. C'est le Days Gone, c'est l'exemple typique de on a les forêts du nord des États-Unis, voilà. Ce qu'on a vu dans 120 000 épisodes d'X-Files ou dans tous les livres de Stephen King. Et c'est des chouettes cadres, mais le problème c'est que ça a été vu des tonnes de fois. Et moi je ne fais que militer pour le fait d'aller vers des cultures et des espaces différents. Parce qu'on a le cas, un jeu comme Moondawn qui se passe dans les Alpes suisses, où tout le jeu est en patois suisse, mais d'un coup il y a une atmosphère, quelque chose qui se dégage, ou un jeu comme. Alors je me trompe toujours entre Sweet Home c'est Home Sweet Home, qui est un jeu thaïlandais où on joue sur des univers thaïlandais, etc. Une culture, une approche, une esthétique qui sont différentes. Tout de suite, ça va convoquer des imaginaires différents. Ça va convoquer des choses qui vont nous sortir des sempiternelles forêts avec soit les zombies, soit les rites sataniques, où on retrouve toujours un peu, bah encore comme Blair Witch par Bluebird Team, où on retrouve toujours le même genre de cadre. Et effectivement, au-delà de l'iconographie du cadre, il y a des choses à réfléchir d'un point de vue spatial, parce que effectivement, je lance ça comme ça, qui veut bien le faire, hein, mais un jeu d'horreur qui se passerait dans le Grand Canyon, où on serait au fond du Grand Canyon, je pense que ça n'irait pas provoquer les mêmes mécaniques de jeu et les mêmes idées de jeu que un jeu qui se passe pour la xème fois dans une forêt du nord des États-Unis.
Mundane, c'est aussi un rapport à la langue, donc tu as parlé du patois, c'est le romanche il me semble, donc c'est une langue qui est parlée par environ 60 ou 50 000 locuteurs en Suisse, donc quand on ne la connaît pas, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui jouent au jeu évidemment, on a un effet d'étrangeté immédiat.
Complètement. Ouais.
Alors que dans d'autres jeux, évidemment, on n'a pas ça, je pense notamment à Steel Rising, qui se passe à Paris pendant la Révolution, et la plupart des gens étaient couronnés par l'anglais. Pourquoi on ne peut pas avoir ce genre de phénomène? C'est qu'une histoire de budget, de cahier des charges, d'après vous? Cet effet d'étrangeté propre à la langue, cette expérimentation qu'on ne voit pratiquement nulle part en fait.
Je pense qu'il y a aussi il y a une facilité quelque part, c'est de convoquer des grands cadres qu'on connaît très bien au cinéma, en littérature comme tu disais. Je pense qu'il y a quelque chose qui, quand on veut qu'un jeu parle au plus grand nombre, c'est vrai que convoquer l'imagerie qu'on connaît très bien d'une forêt en Amérique du Nord, ça parle immédiatement. Après, on peut aussi avoir des cas de figure où un studio, une équipe peut s'amuser justement à convoquer des codes et à les tordre un petit peu. Je pense par exemple à Deadly Premonition, Swery par exemple, qui convoque toute l'imagerie qu'on connaît bien de David Lynch, mais qui va quand même impulser sa propre personnalité, sa bizarrerie. C'est-à-dire, on peut à la fois convoquer des grands référents, des grands modèles, des grandes images comme ça bien connues, mais après l'idée c'est de personnaliser tout ça, de le transformer, de lui donner un souffle. La vraie performance c'est peut-être de donner une imagerie bizarre à une ville américaine typique qu'on connaît dans tous les films, et justement de réussir à lui donner une ambiance étrange par les personnages, par les événements, par le décor évidemment, mais en partant peut-être de lieux très communs, mais en les transformant.
Tu parles de...
Non, je voulais juste préciser, mais après on peut en creusant un peu trouver des jeux sur Steam, des jeux qui sont vraiment extrêmement étonnants par leur cadre. Et je pensais juste rapidement à l'exemple du jeu Fragile, qui est un jeu mongol. C'est le tout premier jeu vidéo de Mongolie, qui est un jeu d'horreur qui va traiter de l'enlèvement d'enfants et du trafic d'organes. Alors c'est vraiment pas fun, hein, mais à Oulan-Bator, et ça se passe en Mongolie. C'est traite vraiment d'un phénomène local, et c'est un jeu engagé vraiment hyper intéressant. Et là, pour le coup, oui, on est complètement en dehors des cadres habituels de l'horreur.
Justement, tu parles de renouveler le cadre. Patrick, tout à l'heure, tu parlais de bizarrerie et de Lynch. Donc, ça nous fait un pont parfait entre ce sujet et Alan Wake 2. Est-ce qu'on peut passer le visuel en régie, s'il vous plaît? Voilà. Oui, je suis obligé. Alan Wake 2, c'est évidemment un jeu qui a fait beaucoup parler, en bien, la plupart du temps, qui a été plus ou moins acclamé, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, et notamment pour ses visuels, ses visuels et son côté expérimental ou jugé tel quel, notamment par justement sa bizarrerie qu'il a parfois tendance à placarder d'ailleurs dans beaucoup de décors et d'éléments. On voit à l'écran une scène qui se déroule dans un univers musical avec le groupe du jeu, et il y a toute une imagerie scénique qui entre en scène. Est-ce que vous trouvez que Alan Wake 2 et grosso modo un jeu qui permet de renouveler le rapport à l'horreur grand public? Est-ce que vous voyez Remedy comme un studio un petit peu laborantin qui a des tas d'idées visuelles et créatives à faire valoir?
Ils ont du parti pris, ça c'est sûr. Ouais. Ils sont très passionnés par le cinéma, ça on le voit régulièrement. C'est un jeu intéressant. Moi, j'ai eu des soucis sur des mécaniques que je trouvais assez redondantes ou qui m'ont posé des problèmes. En revanche, je trouve que l'objet plastique est assez incroyable. Je trouve que le métissage des technologies intégrées, que ce soit de la full motion vidéo, de la 3D temps réel, qui sont comme ça mélangées avec une sorte d'ambiguïté entretenue, hein, avec des séquences comme ça qui mélangent le réel, la 3D, avec une bizarrerie, je trouve, qui est complètement entretenue. Je trouve ça très intéressant parce que ça sert le propos du jeu, hein, qui surfe complètement sur des mécaniques qu'on connaît très très bien chez Stephen King notamment, c'est-à-dire le surnaturel qui survient dans le monde prosaïque qu'on connaît très bien. Et le jeu sait très bien, Alan Wake 2, utiliser cette fibre-là, dire on prend des lieux qui sont photoréalistes, des acteurs photoréalistes parce qu'ils sont numérisés, ils sont absolument réalistes sur le plan visuel, et en même temps une bizarrerie de l'intégration de vidéos échantillonnées, et ça ils le font très bien. Mais d'entrée de jeu, dès qu'on lance la partie, on est mal à l'aise en fait. Justement la première séquence où on dirige ce personnage, je vous laisse découvrir, mais c'est saisissant, et le jeu commence tout de suite à nous mettre à l'épreuve en fait sur justement ce rapport à l'image photoréaliste. Encore une fois, voilà, des mécaniques moi qui m'ont posé parfois des problèmes, mais encore une fois, il est assez saisissant sur le plan esthétique, plastique. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
Ouais, mais justement, j'allais rebondir sur le mot plastique, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. D'un point de vue de l'iconographie, on est vraiment sur le menu maxi best-of de je prends toutes les choses étonnantes de l'horreur ou de l'étrangeté grand public, à la fois un peu underground, mais quand même hyper connu et fléché. David Lynch, X-Files, etc. On a tout l'intégrale de Stephen King. Ouais, tout est coché. Donc là, finalement, il y a strictement rien d'intéressant et d'original de ce point de vue-là. Après, ils ont une manière de l'adapter, et même on est dans le cliché qui est tellement appuyé que ça en devient parfois lourd, mais avec une manière, une sincérité et une manière de le faire qui rend ça intéressant. Et là où ça devient, je pense, pour moi, ça franchit vraiment un cap d'originalité, c'est le travail plastique sur l'image. Il y a un truc qui est vraiment dans l'ordre presque du cinéma expérimental ou d'œuvres de vidéos plasticiennes qu'on pourrait tout à fait voir à l'étage au-dessus, de mélange des textures, de mélange des images, de créer de la matérialité sur de l'image et de sortir l'image numérique du jeu vidéo, de simplement c'est un rendu 3D. Et effectivement, ce mélange de full motion vidéo, de 3D qui s'incruste, on ne sait plus vraiment si on est en train de voir des acteurs numérisés, des acteurs filmés, projetés dans des espaces 3D et avec des projections, des fondus, on est sur quelque chose qui relève parfois de l'art d'installation, qui relève parfois de l'art vidéo au sens où on l'entend ici. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment beaucoup plus original que le cadre, que le récit qui, quand même, il est biscornu, il est bizarre, il est étrange et relativement attendu. Remedy, si on connaît un peu leur historique, on sait vers quoi on va quand on démarre un jeu Remedy. Pour autant, moi, visuellement, je m'attendais pas. J'avais beau avoir joué à Control qui essayer déjà des choses comme ça avec des surimpressions, des mélanges, des moments où on ne savait pas trop ce qu'on est en train de regarder. Là, sur Alan Wake 2, ils ont vraiment poussé tous les curseurs à fond et il y a des moments qui sont vraiment plastiquement très forts. Et ça m'évoque un des éléments presque qui m'avait le plus plu dans Control, qui est le générique de fin, où on a juste un travail de texture, de mélange de texture pour le générique de fin et qui est plastiquement impeccable. Et là, par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans très peu de studios. Il y avait des choses, moi ça me fait penser par exemple au générique notamment d'introduction de Observation, qui est un jeu de science-fiction plutôt horrifique, où il y a un travail de texture numérique aussi qui est fait dans le générique d'introduction qui est hyper intéressant, et c'est le genre de choses malheureusement qu'on voit pas assez souvent, je pense. Et là il y a une vraie originalité.
Mais est-ce qu'il crée vraiment la peur? Ça c'est la question. Est-ce que c'est vraiment une peur? Pas forcément, ça peut être un malaise, ça peut être un...
On sait plus ce qu'on regarde, c'est hyper important. On parlait de Lovecraft tout à l'heure.
Et c'est déjà beaucoup hein, d'arriver à nous mettre dans une sorte d'état de questionnement sur qu'est-ce qu'il se passe à l'écran exactement. C'est déjà une performance. Après, malheureusement, effectivement, les mécaniques ne sont peut-être pas forcément...
Mais justement, vous dites qu'on ne sait plus ce qu'on regarde, en fait, quand on est devant Alan Wake 2, et que vous parliez tout à l'heure, c'était toi, Guillaume, du moteur 3D et du côté très, très foutraque, on va dire, qui crée une impression parfois on est déconcerté. Justement, sur cette idée de spectaculaire qui peut éventuellement faire barrage au bizarre. Je pense à une phrase qui m'avait plutôt marqué quand je l'avais entendue, c'était dans un documentaire consacré à Vilmos Siegmund, quelques mois avant sa mort en 2016. Donc Siegmund, qui est donc un ancien, puisqu'il est mort évidemment, mais un grand chef opérateur américain, naturalisé américain d'origine hongroise, figure de proue du Nouvel Hollywood, qui était un maître de la lumière naturelle. Spielberg disait de lui qu'il éclairait avec un rien. C'était un compliment. Et qui a notamment qui a travaillé avec notamment Cimino. Il a éclairé Voyage au bout de l'enfer. C'est lui qui a signé la lumière du magnifique western de John McCain. c'est quelqu'un qui évidemment a des choses très intéressantes à faire valoir sur ce propos, et qui disait que, d'après lui, avec l'irruption du numérique et de la propension qui était maintenant très courante et de la possibilité qu'avaient les gens de faire de belles images avec le numérique et la facilité, sans se soucier parfois du cadre, de la vision, pour lui ça posait problème. Et il disait que la plupart des nouveaux chefs opérateurs en fait avaient une tendance à se soucier de faire justement de belles images, très lisses, très numériques, mais que pour lui ça manquait de vision et qu'en gros de belles images, pour reprendre sa phrase, pouvaient gâcher un film.
Ah mais je pense que ça s'applique complètement aux jeux vidéo. Oui. Moi j'ai toujours cette idée, je pense... Le risque dans le cadre d'un jeu d'épouvante, j'y tiens, d'un jeu d'épouvante, je pense que le risque c'est de trop montrer, parce qu'aujourd'hui les technologies permettent de réaliser des choses formidables à l'écran, on peut avoir des textures absolument incroyables, mais pour moi j'ai toujours eu la sensation que dans un bon jeu d'épouvante, la matérialisation du monstre, entre guillemets, doit presque être une libération. C'est-à-dire que quand on le voit, ok, je sais ce que c'est, maintenant je peux l'affronter, ou je peux fuir, ou réagir. Et pour moi, c'est vraiment son absence qui doit créer... Enfin, encore une fois, je reviens sur cette idée d'appréhension, l'absence à l'image. Et c'est complètement antinomique, parce que le jeu vidéo, c'est de l'image, c'est de l'interaction. Mais justement, je pense que pour faire peur, il faut priver le joueur de ce qu'il attend, l'interaction et la vision. En tout cas, un certain temps. Puis après, encore une fois, c'est une rythmique. C'est un tempo. C'est amener peu à peu le jaillissement du monstre qu'on va affronter ou qu'on va fuir. Mais en tout cas, je pense que vraiment, il y a cette question de ne pas trop montrer, effectivement, parce qu'on peut le faire aujourd'hui.
C'est presque contre-productif, enfin contre-intuitif plutôt, puisque dans le jeu vidéo moderne, et en particulier dans la peur, la tendance est plutôt justement à la volonté de montrer. Et même
la Plague Tale, c'est un exemple où on montre, justement, c'est extrêmement démonstratif, c'est très bien fait, avec ces hordes de rats à l'écran, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose de saisissant. Par contre, effectivement, c'est une autre peur, ça peut être un dégoût, ça peut être un... c'est une autre façon de créer l'appréhension chez le joueur, je pense.
Oui, et notamment, je pense au remake de Silent Hill 2 qui n'est pas encore sorti, même si certains y ont joué en avance. Beaucoup de joueurs, enfin beaucoup en tout cas, certains joueurs sont inquiétés du fait que le côté mystérieux du premier, enfin du jeu d'origine, avec le brouillard, pourrait éventuellement disparaître dans ce remake justement. Est-ce que ça avec une image trop nette en définitive, est-ce que ça ne rejoint pas cette idée justement de netteté qui contredit le principe même de l'horreur finalement.
Au-delà du gatekeeping autour des fans, oui, ce qui est encore un autre problème. Mmh. Mais effectivement, il y a quelque chose dans la granulosité de l'image, la plasticité de l'image qu'on perd avec l'évolution de certaines technologies et qui va jouer contre son camp en fait, qui va enlever une certaine efficacité à l'horreur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans les petits jeux indépendants mais qui ont accès à des gros moteurs comme les dernières versions de Unreal Engine, où on a des jeux qui vont user de lumière hyper naturaliste et réaliste et qui finalement vont complètement desservir leurs propos parce que ça met en valeur l'artificialité de ce qu'ils montrent. On a il y a des tonnes de double A ou même de petits jeux qui ont comme ça des lumières très crues, très je pense à Pneumata qui est sorti il y a peu de temps et qui fonctionnent pas du tout d'un point de vue des lumières, parce qu'il n'y a pas cette volonté de faire quelque chose qui serait expressionniste, qui serait efficace dans l'horreur. Et parce que en tout cas avec le jeu vidéo au cinéma c'est encore un autre problème, mais dans le jeu vidéo si on a des lumières trop crues, on voit quand même malgré tout, malgré les avancées technologiques, on voit qu'on est face à quelque chose de très cru et de complètement artificiel. Et effectivement l'espèce de granulosité, l'aspect un peu sale de l'image et qui est une des marques de fabrique de Silent Hill, c'est un voile, c'est un cache qui permet d'ajouter, comme dire Patrick, une patine sur le jeu qu'on risque, moi j'ai pas encore vu le jeu tourner, mais qu'on risque de perdre sur le remake. Mais après, il y a d'autres outils, il y a aussi un contrôle beaucoup plus fin des lumières qu'il y a quelques années, et encore plus qu'il y a quelques décennies. Donc j'avoue que là, je n'ai pas ma boule de cristal, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a un équilibre qui se crée, et d'ailleurs c'est cet équilibre autour de l'image, c'est quelque chose qui est beaucoup recherché par les tout petits développeurs qui font notamment des jeux avec des esthétiques PS1, qui reviennent dans les années 90 avec du low poly, un grain absolument... Il y a un jeu qui est sorti récemment, Plastomorphosis, je crois, qui est un jeu qui reprend les codes du premier Resident Evil et qui a une esthétique vraiment low poly et avec, il y a tout. Il y a du bruit sur l'image, il y a les skylines, il y a des déformations, il y a des lens flares, il y a absolument tout ce qu'il faut.
comme le vent, là.
Pour qu'on ne voit rien à l'image, à tel point que sur la fin, les ennemis éblouissent la moitié de l'écran, on ne comprend strictement plus ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui rajoute effectivement du mystère, rajoute une étrangeté. Par contre, il faut accepter de jouer un jeu qui est pénible à regarder. Parce que clairement, il y a un moment... alors, on peut régler les filtres, mais c'est un équilibre qui est intéressant. Je trouve que c'est une expérimentation qui est assez intéressante.
Et c'est intéressant parce que ça montre aussi que la recherche de la peur, elle est toujours liée à ce support, le jeu vidéo, qui reste un produit technologique. À un moment donné, un jeu d'horreur qui fonctionne, c'est la rencontre entre un public, une machine, un postulat technologique à un moment donné, et puis évidemment une création. Il y a cette rencontre à un moment donné, Resident Evil 1, c'est ça, c'est une réponse à une demande, enfin, en tout cas le jeu crée un électrochoc à ce moment donné. Silent Hill 2, c'est pareil, c'est un jeu qui contorsionne les limites de la PS2 à l'époque et qui sait même exploiter les limitations d'affichage pour les mettre à contribution en termes d'ambiance. Mais c'est intéressant, ça montre aussi que l'horreur, la peur, elle est aussi relative à un moment donné, un postulat technologique, et le jeu vidéo doit savoir s'emparer de certaines configurations d'écran, de nombre de polygones qui deviennent complètement évidemment transparents pour l'utilisateur, l'utilisatrice. Mais en tout cas, ça fait partie de ces mécaniques en sous-marin qui tournent, c'est-à-dire savoir exploiter un moteur, un postulat technique donné pour créer un choc de saisissement, de surprise, et c'est effectivement relatif à différentes technologies sur un jeu vidéo qui progresse évidemment de façon exponentielle en termes de capacité de montrer, de créer, d'où peut-être le risque, effectivement, aujourd'hui, où on peut facilement créer l'horreur à l'écran. Donc,
je suis désolé, je vous interromps. Si on veut prendre une petite question, il va falloir s'arrêter là pour la première table ronde, ça passe si vite. Y a-t-il une question dans le public ?
Petite question, quel lien vous faites, comment vous analysez le rapport à la difficulté dans les jeux d'horreur ? Petite anecdote, enfin, petit témoignage personnel, par exemple, dans certains jeux, on va y venir après, mais dans Amnesia, Dark Descent, ou dans Resident Evil 7, voilà, j'ai eu beaucoup de stress par le rapport à la menace, mais sans avoir été amené à échouer souvent. Et quand je prends l'exemple inverse, on a parlé de Visage ou d'autres jeux, où en fait le fait de mourir de manière successive a enlevé en fait toute notion de peur et de stress, ne restait que l'agacement. Je ne sais pas comment vous analysez le lien entre difficulté et horreur.
Si je peux me permettre, cette question de la mort, de la répétition de l'échec et du rapport à la difficulté modulable, elle sera surtout abordée dans la troisième table ronde. Donc je vous invite, si vous voulez, à faire une réponse très courte sur le sujet pour éviter peut-être, en quelques mots, votre idée, mais sans trop vous avancer. Quoi.
Oui, alors moi j'ai tendance à penser, notamment dans un but de jeu d'épouvante, pour moi les boss sont des tue-l'amour, par exemple. Quand on est face soudainement à une narration qui se braque et qui nous met face à un pic de difficulté, ça peut vraiment être frustrant parce que ça casse l'histoire, ça casse l'évolution, et puis on se retrouve effectivement face à des mécaniques. Et puis ça nous rappelle en général ce genre de passage dont vous parliez. Effectivement, on revient sur des mécaniques récurrentes. On va refaire un passage pour passer mieux ou avoir plus d'énergie, etc. Et on casse. Et en général, on n'est plus dans l'immersion, on est dans la mécanique de sauvegarde. Et là, on se décante complètement de la dynamique horrifique. Et là, on n'a plus peur. Et en général, c'est là où le jeu perd de son... Alors, ça peut être voulu aussi. Ça peut être un choix des game designers de dire, on va forcer le joueur à arpenter un lieu comme ça, à aller chercher, à revenir, à réunir plus d'objets ou d'équipements. Mais effectivement, ça peut être des ruptures dans la narration qui peuvent être malvenues.
Oui, non, je suis complètement d'accord, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois cette idée de menace latente qui va être un moteur de la peur et un élément pour faire avancer dans l'histoire, mais en même temps, effectivement, une difficulté excessive qui ferait qu'on... C'est un peu le principe des Souls. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça devient de l'apprentissage. Le fait de mourir, c'est apprendre un chemin. Et je le disais quand je parlais en introduction d'Outlast, Outlast me fait très peur jusqu'au moment où j'ai repéré le chemin à force de mourir en chemin et je sais par où je dois passer, comment je dois passer, et là il n'y a plus de peur qui s'exerce parce que j'applique une règle et je pratique un jeu sans plus avoir la dimension horrifique. Donc effectivement, c'est un curseur qui est, je pense, très difficile à régler. mais qui est important pour l'horreur malgré tout, donc on peut pas forcément s'en dispenser, ou alors on joue que sur la mise en scène, façon Walking Simulator, façon les premiers jeux de Bloober Team, et là on est encore dans un autre type d'expérience.
Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à tous les trois, on peut les applaudir, merci.